Alors aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous un sujet central de la Bible. C'est un sujet dont on parle finalement à chaque culte. Et je pense que ce matin, le Seigneur voulait que je fasse un focus autour de ce thème. Et donc ce matin, nous allons parler de sacrifice. Et je vais ouvrir avec cette question. Est-ce que ça vous arrive parfois de devoir faire des sacrifices? Alors nous allons voir un peu d'où ça vient tout ça. Pourquoi? Le sacrifice, finalement, c'est une conséquence de ce qu'on appelle dans nos milieux la chute. À partir du moment où Adam et Ève ont consommé le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à partir du moment donc où la mort entre en eux et où ils découvrent leur nudité. Et là, en fait, il y a un petit sous-entendu, une sorte de sacrifice finalement qui intervient. Le sacrifice, en quelque sorte, on peut dire que c'est l'empreinte de la mort. Alors, il n'est pas nommé au début du livre de la Genèse. Il est sous-entendu. On lit dans Genèse au chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, ce verset, évidemment, c'est un vrai mystère à lui tout seul. Déjà parce qu'il présente l'Éternel Dieu sous des traits humains qui entreprend de concevoir des vêtements pour couvrir Adam et Ève. Alors certaines personnes voient ce récit comme une image, il y a plusieurs interprétations possibles. Toutefois, au-delà de l'interprétation de chacun, j'aimerais souligner ce que le texte nous présente. À ce moment de l'histoire, l'homme et sa femme ont transgressé la volonté de Dieu. Ils ont fait confiance à leur ennemi, au serpent, qui a fait passer Dieu pour un menteur. Il leur a dit, vous ne mourrez pas. Or, Dieu avait dit, vous mourrez si vous en mangez. Et finalement, eh bien, ils se sont empoisonnés tout seuls. Ils se sont retrouvés dans une position de honte. Ils ont découvert leur nudité. Dieu a entrepris donc de faire ce sacrifice, de façonner des vêtements pour les couvrir de leur nudité et de leur honte. Et donc ainsi, peu importe ce qu'on pense de ce texte qui se déroule dans le jardin d'Éden, eh bien, on constate qu'il nous dévoile le cœur du Père à travers en quelque sorte un acte prophétique, il nous montre que Dieu est prêt à faire un sacrifice pour couvrir, pour prendre soin de ses enfants. Et dans ce même chapitre 3 du livre de la Genèse, donc l'Éternel adresse un jugement suite à cette désobéissance, et il dresse un état des lieux de la situation. Il décrit que le sol sera maudit, qu'il va falloir désormais travailler pour le rendre fertile. Il y a aussi l'augmentation des douleurs de l'enfantement. Il décrit la façon dont l'homme mourra aussi. Il reviendra à la terre. Il a été fait de terre. Et enfin, eh bien, il chasse Adam et Ève hors du jardin afin de les empêcher de consommer le fruit de l'arbre de vie. Et on peut comprendre en quelque sorte afin de les préserver d'un état de péché éternel et qu'ils passent à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux, pour l'éternité. Mais avant de les chasser, Dieu ne les a pas laissés nus. Il leur offre de quoi se couvrir. Parce que ce qu'ils ont essayé de faire pour se couvrir par eux-mêmes, eh bien, ce n'était pas suffisant. Alors ils quittent le jardin d'Éden avec cette promesse, en quelque sorte, celle que Dieu continuera d'être leur Dieu et qu'il continuera de prendre soin d'eux. Alors il leur offre de quoi se couvrir. Un sacrifice, finalement, c'est une offrande. C'est un cadeau. Et je pense ne pas trop me tromper si je dis qu'ici, à peu près tout le monde apprécie les cadeaux. Alors maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous offre un cadeau et que ce cadeau, c'est pas trop ce que vous attendiez? Voire même qu'il est de très mauvais goût, mais vous vous sentez un peu gêné de le refuser, vu qu'il est offert de bon cœur. Je pense que ça peut arriver un peu à tout le monde, ça. Et à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir offrir un cadeau à quelqu'un et vous vous dites ça, c'est vraiment le cadeau qu'il lui faut, ça va lui plaire. Et puis finalement, eh ben, ce cadeau, il fait un peu, il attire pas plus l'attention que ça, voire même quelqu'un d'autre a offert un cadeau qui attire plus l'attention que le vôtre. Ça peut arriver, c'est compliqué des fois ces histoires de cadeaux. Alors ça m'amène à vous parler d'une autre histoire qu'on trouve dans la Genèse, l'offrande d'Abel qui a volé la vedette à celle de son grand frère Caïn. Le texte nous dit que l'Éternel n'y a pas prêté la même attention. à cette offrande. Pourquoi ? C'est un mystère, mais un mystère dont on trouve quand même une réponse dans la Bible. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dira, Hébreux chapitre 11, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici que finalement la foi va déterminer la saveur de l'offrande, du sacrifice pour Dieu. Et deux versets plus loin, on peut lire que d'ailleurs sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ça, c'est la version seconde. Et le mot « existe » qui est dans ce texte, dans cette traduction, ne correspond pas tout à fait à ce qu'il y a dans l'original grec. En fait, il est écrit plus précisément qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Que Dieu est? Ouais, c'est ça. C'est ainsi que l'Éternel se présente à Moïse. Lorsqu'il dit « Je suis », tu diras ainsi aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous ». Croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il semble donc que dans le cœur de Caïn, il y avait quelque chose qui a mis à mal sa foi face à Dieu. Ce n'était pas qu'une question d'offrande, donc c'était aussi une question de foi. Malgré la déception, la jalousie de Caïn vis-à-vis de son frère, ce texte nous précise quand même un détail important, très important, c'est que Dieu va s'intéresser à son comportement. Il va lui demander, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et à partir de cette histoire, je vais vous parler d'une autre histoire, cette fois-ci, qui nous est racontée par Jésus, celle du fils prodigue. Vous vous souvenez, c'est cet homme qui avait deux fils. Et un jour, le plus jeune vient lui demander, il vient demander à son père, donc la part de l'héritage qui lui revient. Et donc son père lui donne, et le fils part dans un pays lointain, on nous dit. Je pense que c'est une sorte de Las Vegas de l'époque, où il a pu dépenser toute sa fortune dans, nous dit-on, la débauche, donc prostitution, peut-être consommation déraisonnée, ivresse, peut-être même drogue. Qui sait ? Et puis un jour, une crise intervient dans ce pays lointain. Une crise économique, c'est la famine. Il y a une crise des récoltes et il se retrouve sans ressources. Et il se retrouve obligé de travailler désormais pour les habitants de ce pays. Et il se retrouve à garder leur élevage de porcs, ce qui, dans la culture hébraïque, n'est pas très glorieux. Et puis, il est dans une telle détresse qu'il n'a même pas la possibilité de manger ce qui est donné aux porcs. Donc, eh bien, ce garçon se met à réfléchir et il se dit « Chez mon père, il y a des ouvriers et puis eux, ils ne manquent de rien. » Et donc, il prépare son retour, ses excuses, ce qu'il va dire à son père, pour qu'il le traite non plus comme son fils, mais comme un simple ouvrier, parce que sa situation sera bien meilleure que celle qu'il a actuellement. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que lorsqu'il revient, son père était si inquiet que lorsqu'il voit son fils revenir, eh bien il court, il le prend dans ses bras et il ne le laisse même pas finir de présenter ses excuses et il demande qu'il soit revêtu des plus beaux vêtements, d'un anneau au doigt, de sandales et il ira demander aussi le sacrifice du veau gras pour se réjouir du retour de son fils. La suite de l'histoire, c'est que le fils aîné qui était dans les champs à ce moment-là, eh bien, il revient des champs et puis il entend la joie, la musique. Et puis il demande à quelqu'un et il apprend tout ce qui s'est passé. Et puis là, il devient furieux. Il devient furieux, il ne veut pas se joindre à la fête. Et puis son père vient le retrouver en lui demandant de venir, en l'implorant, en lui disant « mais viens ». Mais lui lui fait part de l'injustice, il trouve cette situation injuste. Vis-à-vis de lui, ses efforts qu'il fournit au quotidien, aux côtés de son père. Et puis le père lui explique qu'il s'agit de deux choses différentes, qu'il n'y a pas de comparaison à faire, qu'il a déjà tout ce qu'il veut auprès de lui, qu'il n'y a pas lieu d'en être triste. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est un peu la même phrase, finalement, qu'il dirait. Et donc, dans cette parabole de Jésus, le Père nous montre que le sacrifice qu'il décide de faire pour le retour de son enfant, il est offert par amour pour lui, et non pas pour créer un conflit familial. Le Père, de son point de vue, n'a vu qu'une chose, c'est que son fils est passé de la mort à la vie. Et c'est pourquoi il a fait couvrir son fils avec les plus beaux vêtements, qu'il lui a fait placer un anneau au doigt, le signe d'un statut, d'un rang, d'une appartenance à cette famille, qu'il lui a fait mettre des sandales afin qu'il puisse marcher avec assurance, sans risquer de se faire mal. Et il y a, pour couronner le tout, le sacrifice qui vient sceller une nouvelle alliance familiale et aussi pour se réjouir. Le sacrifice donne naissance à la joie. Alors il faut de la foi pour passer de la mort à la vie. Il faut de la foi pour ne pas persister dans l'erreur. Bien souvent, dans notre monde, beaucoup de gens vivent dans le déni, aucune espérance, et parfois même, ils vivent avec une haine prononcée contre Dieu. Et certains considèrent même parfois qu'ils ont franchi un seuil de non-retour. C'est-à-dire, je suis allé tellement loin que, de toute façon, même si je revenais à Dieu, il ne voudrait pas de moi. Avoir la foi, c'est une lutte, c'est ce combat du quotidien, de chaque jour, pour chacun. Et je pense que c'est pour cette raison que Jésus affirme qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Non pas que les autres ne soient pas importants, les 99, mais il s'agit encore une fois de deux choses différentes. Et le passage de la mort à la vie, la repentance, demande de la foi. Cela demande de considérer Dieu comme qui il est et de prendre conscience qu'il est justement le rémunérateur, qu'il peut pardonner pleinement, quel que soit le chemin parcouru ou la distance qui nous sépare de lui. David a écrit dans ses psaumes, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Le fils prodigue est venu avec son esprit brisé et son cœur repentant en sacrifice. Et il a obtenu bien plus que ce qu'il imaginait, que ce qu'il désirait. Il a été pleinement rétabli. Et Jésus nous dira que si un père donne de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison notre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Alors nous lisons un verset très connu, je pense que tout le monde l'a un peu en tête, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Rendons-nous compte, Dieu a renversé le destin de l'humanité lorsqu'il est venu en tant qu'homme et qu'il s'est livré lui-même en sacrifice. Il est le commencement et la fin, et finalement, il a mis en œuvre un premier sacrifice pour couvrir la honte, et il a mis en œuvre le sacrifice éternel en passant lui-même par la honte. Celle de se faire simple homme déjà, de se limiter tout en étant pleinement Dieu, celle d'être livré à l'abandon, celle de subir l'injustice humaine, celle de devenir l'agneau parfait, sans tache, qui rachète tous les péchés du monde. Il est l'antidote à ce poison mortel que l'homme et la femme ont consommé. L'antidote qui fait passer le destin de mort des hommes à la vie éternelle par la foi en qui il est et en ce qu'il a fait. Tout cela non par nos propres œuvres et non par nos propres sacrifices. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Jésus, le Fils de Dieu, a transformé la notion de sacrifice. Le sacrifice faisait partie intégrante de la loi de Moïse, du rituel du temple sur terre. Et ils ont eu un rôle, nous dit l'Épître aux Hébreux, pour la pureté de la chair, jusqu'à la venue de l'agneau de Dieu, qui porte et ôte le péché du monde. Jésus est venu accomplir tout cela. Le sacrifice se pratiquait dans le temple. Mais maintenant, qu'en est-il ? Où sont les sacrifices ? Où est le temple ? Ou devrais-je dire, où sont les temples qui accueillent la présence de Dieu aujourd'hui ? Où sont les temples qui accueillent l'Esprit de Dieu aujourd'hui ? Les sacrifices n'ont pas disparu pour autant. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Alors où sont passés ces sacrifices ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Le Nouveau Testament nous apporte une fois de plus un éclairage sur cette question. Mais pour résumer, je dirais qu'ils ont pris un autre sens, celui que Dieu voulait dès le commencement, le sens d'une relation. Jésus nous dit que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, car pour lui tous sont vivants. Notre Dieu est le Dieu de la vie, et nous l'avons déjà dit, le sacrifice, finalement, s'est matérialisé comme une empreinte de la mort. Alors, est-ce que vous savez combien de fois on retrouve le terme sacrifice dans toute la Bible ? Alors, j'ai compté, mais je ne vous promets pas que c'est exactement ça, sachant qu'il y a le mot sacrifice et puis il y a aussi des fois les sous-entendus. Mais j'en ai compté 352 fois dans toute la Bible. Et parmi ces 352, donc c'est parfois au singulier, parfois au pluriel, parmi ces 352, à votre avis, combien sont dans le Nouveau Testament ? Un peu moins. J'en ai compté 29. Et dans ces 29 fois du Nouveau Testament, il y en a déjà 15 rien que dans l'Épître aux Hébreux. Ce qui s'entend, vu que l'Épître est destinée aux Hébreux, donc qui avaient toute la loi de Moïse. Et donc tout ça, déjà, c'est le signe d'un accomplissement. L'accomplissement du seul sacrifice valable de Christ. Par sa résurrection, eh bien, il a montré que la mort, elle n'a plus d'emprise, et je crois que cela concerne aussi les sacrifices. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui encore, donc, Dieu nous exhorte à lui offrir des sacrifices. Nous lisons « offrir nos corps comme un sacrifice vivant et saint ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, nous avons tendance à comprendre le mot « saint » un peu comme un idéal de pureté. Mais le sens fondamental, ça signifie séparer, être mis à part, être consacré, être saint, c'est être à part pour Dieu, vivre pour Dieu, appartenir à Dieu et non à Satan, le prince de ce monde. Et évidemment, cela signifie aspirer à vivre avec comme modèle, comme unique référence, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui a montré sa perfection en tant qu'être humain. Être mis à part pour Dieu, donc c'est un sacrifice. Vivre une vie avec Dieu en tenant compte de sa volonté, c'est un sacrifice. C'est un renoncement à soi-même. On parle d'une mort à soi-même. Or, aujourd'hui, le monde ne prend pas cette direction. Il prend une direction totalement opposée. On y voit une affluence autour du développement personnel, de la performance personnelle, de divertissement en tout genre. Certains disent « ni Dieu ni maître », vivre pour soi-même. La Bible nous montre que tout cela n'entraîne finalement qu'une vie remplie d'illusions. C'est une vie de mensonges et finalement c'est une mort déguisée. Apprendre à connaître Dieu, à discerner sa volonté, passer du temps avec lui dans sa présence, c'est un sacrifice, mais un sacrifice de vie. Rien n'est plus précieux que notre temps, mais ne perdons pas de vue que Dieu seul en est le maître. Il est l'ancien des jours. Hébreux 13, verset 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Nous lisons aussi dans le psaume 50, « Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore. » Nous avons loué Dieu. La louange, c'est un sacrifice vivant. Nous pouvons humblement reconnaître que nous avons du mal à imaginer à quoi ressemble, à quoi peut bien ressembler le royaume de Dieu dans toutes ses dimensions. C'est inimaginable. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la louange, elle fait partie de ce royaume. La louange, c'est le témoignage de la victoire de Jésus. Psaume 98, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Aujourd'hui, dans le monde, la musique est omniprésente et je crois que les ténèbres se sont emparées de ce qui revient à Dieu. Lorsqu'on prête attention à certaines paroles de certaines chansons qui peuvent être parfois écoutées en boucle par nos contemporains, on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, penser que tout cela n'a aucune incidence. Nous avons un ennemi qui cherche depuis le commencement à nous mentir, à nous détruire. La louange, c'est proclamer la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu est venu sur terre en tant qu'homme et que l'ange est apparu pour annoncer la nouvelle au berger, que s'est-il passé ? Une multitude de l'armée de l'Éternel, nous est-il dit, est venue à ce moment-là pour louer Dieu. Et c'est aussi ce qu'ont fait les disciples lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem. Luc, dans son évangile, nous rapporte que déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, nous l'avons chanté tout à l'heure, « Baruch haba b'shem Adonai, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » L'Épître aux Hébreux nous exhorte aussi à ne pas oublier la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Là, on nous parle de la générosité, on nous parle du don de soi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à être généreux, à faire don de ce que nous avons. Et cette valeur prend de plus en plus d'importance face à la pression du monde aujourd'hui. Un monde centré sur un individualisme, sur une autosuffisance, sur l'abondance et aussi l'extrême pauvreté. C'est important de noter que Jésus, notre modèle, a tendu la main à tous ceux qui venaient à lui, riches comme pauvres, juifs comme païens. Et l'apôtre Paul, de la même manière, a dit « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Jacques, dans son épître, nous dit que la religion, pure et sans tache, très intéressant d'ailleurs parce que le mot « religion » n'apparaît que très peu de fois dans la Bible, 3 ou 4 je crois. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. S'occuper des orphelins et des veuves. Qui sont les orphelins? Qui sont les veuves sinon ceux qui n'ont pas connu le Père et l'Époux? Dieu nous demande de prendre soin de nos contemporains qui ne connaissent pas le Seigneur, de les aimer, d'être dévoués, finalement, de nous sacrifier. Pour eux, pour leur salut, nous devons les aimer, même si parfois nous avons de nombreuses raisons de ne pas aimer leur comportement, leurs agissements. Nous devons les aimer comme Dieu nous a aimés, sans faire de distinction, de comparaison, de jugement, car chaque personne est différente, unique, et tous ont été voulus par Dieu. Tous sont la création de Dieu. Et Dieu n'a pas de chouchou. Personne ne peut mériter son amour, mais dans sa bonté et, je dirais, dans sa paternité. Dieu nous l'offre, Dieu fait grâce, il aime chacun profondément et surtout, il sait exactement comment aimer chacun. Si quelqu'un a du mal à aimer aujourd'hui, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de regarder à Jésus, de contempler Jésus, de contempler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, comment il a agi. Une fois encore, Il est notre modèle. Dans la première épître de Jean, on trouve cette phrase toute simple. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Pensons à ce verset juste un instant et à tout ce que cela implique. Ça implique qu'il n'y a pas une once de méchanceté en Dieu. Pas parce qu'il n'en a pas conscience de ce qu'est la méchanceté. Il le sait très bien, puisqu'il sait très bien juger ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Mais parce qu'il a choisi d'être parfaitement bon. Il a choisi d'aimer parfaitement. Il a choisi d'être amour et de revenir vers l'épouse infidèle. Il a choisi de pardonner. Il a choisi d'ouvrir ses bras et de reprogrammer des noces avec l'humanité qui, elle, lui a tourné le dos. Je terminerai avec ce chapitre 44 du livre d'Ésaïe. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Eh bien, c'est cela le sacrifice de notre Dieu. Celui d'être un père qui a décidé d'aimer ses enfants et qui leur témoigne cet amour et restaure leur place dans sa famille lorsqu'ils reviennent à lui. Il les couvre d'un vêtement nouveau. Il leur met une bague au doigt, de nouvelles sandales à leurs pieds et il fait dresser une table, un banquet de noces pour se réjouir avec eux. Amen. Eh bien, Seigneur, merci. Merci parce que oui, le sacrifice éternel, c'est toi qui l'as accompli. C'est toi qui nous as offert la vie en donnant ta vie. Et merci pour toute la joie que tu donnes, Seigneur, que tu distribues dans le cœur de chacun, Seigneur. Nous l'avons vu, la joie fait partie pleinement de ton royaume. Les exaltations de joie, la louange, la paix, tous ces termes que nous connaissons partiellement en ce monde, eh bien toi, Seigneur, tu les donnes parfaitement, Seigneur, pour la vie que tu nous promets à venir. Alors, que toute la gloire te revienne. Amen.